Le SIEC, le salon de l'immobilier et des espaces commerciaux, les 10 et 11 juin 2026 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Ravi de vous retrouver sur l'antenne de Radio Immo et Radio Territoria, ravi de vous faire vivre cette nouvelle édition du SIEC, le SIEC 2026, le salon de l'immobilier des espaces commerciaux ici à Paris Expo, Porte de Versailles pendant deux jours. Nous faisons vivre l'événement en recevant de nombreux invités. Je suis ravi de vous présenter les deux nouveaux invités qui viennent de me rejoindre. Alexandre Séjourné, bonjour.
Bonjour.
Vice-président d'Accessit, ancien directeur général, on va en parler puisque le nouveau directeur général est également présent à nos côtés. Zachary Lerich, bonjour.
Bonjour
et bienvenue donc à tous les deux. Merci d'être présents et d'avoir accepté donc l'invitation. Merci. Donc je disais effectivement une nouvelle organisation, Alexandre Séjourné. C'était quoi l'objectif derrière ?
Mais en fait, nous avons évolué il y a un peu plus de 8 mois maintenant puisqu'on a rejoint un nouveau groupe, le groupe Proméo, qui est un groupe privé, qui est un promoteur investisseur, qui du coup a intégré à son groupe la société Accessit. Accessit, comme vous le savez, nous sommes un asset manager et un property manager pour compte de tiers spécialisé en retail. Et on intègre désormais un groupe de promotion et d'investissement. Et on constitue donc une verticale de métier. Et depuis 6 mois maintenant, on a travaillé à ce que deviendrait Accessit 3.0, puisque c'est la troisième évolution capitalistique de l'entreprise, avec l'ambition cette fois-ci donc de s'adosser avec un promoteur et un investisseur, ce qui nous permet de s'ouvrir à de nouvelles catégories de métiers.
Alors justement, est-ce qu'on peut en citer quelques-uns ?
Oui, tout à fait. Donc on ajoute désormais à notre métier naturel d'asset et property manager le métier d'investment manager, puisque grâce à la partie investisseur que constitue le groupe Proméo, nous regardons actuellement des actifs commerces à l'acquisition.
Qu'est-ce que ça change aussi très concrètement en dehors de l'organisation, ce rapprochement avec ce groupe familial ?
Ça change beaucoup de choses parce que Accessit, à l'origine, c'est une société qui a été constituée par des associés privés. Puis on a rejoint un grand groupe, le groupe Nexity. C'est très différent en termes d'approche. On passe d'une approche très entrepreneuriale, très agile, à une grosse structure telle que le groupe Nexity, qui a aussi de grands avantages parce que ça vous ouvre à de grands sujets. Et là, on revient avec un groupe privé, donc familial. On retrouve cet esprit entrepreneurial. On retrouve cet esprit aussi d'agilité, comme je vous le disais. Le groupe Proméo est un groupe extrêmement agile qui, tout au long de son histoire, a toujours su trouver les voies de diversification qui ont permis son succès. Et Accessit, aujourd'hui, constitue ça. Et on a, justement, de ce rapprochement-là, est née cette idée d'aller sur des opérations d'investissement, puisqu'on est dans une conjoncture très favorable. Quand vous avez la capacité d'investir et que vous avez un outil opérationnel qui est capable de délivrer la restructuration de ce type d'actifs.
Alors, je vais me tourner dans un instant vers Zachary, mais juste avant, ce rapprochement encore, ce changement d'organisation aussi peut-être, c'est quoi la vision derrière ?
En fait, on développe du coup une vraie ambition. Et pour pouvoir nourrir cette ambition, il faut qu'on ait un outil Accessit qui soit très performant, toujours tourné vers l'excellence opérationnelle, la qualité de service, comme ça toujours été, mais dans une autre dimension. Et associer donc ces nouveaux métiers d'investissement à cette exigence-là, c'est une ambition très forte. Et pour nourrir cette ambition très forte, il fallait qu'on étoffe, qu'on renforce notre gouvernance. Et moi qui ai été pendant 18 ans le directeur général d'Accessit, très vite, on s'est dit qu'il faut qu'il y ait une nouvelle énergie, de nouvelles compétences, un regard neuf sur l'entreprise aussi, qui viennent pour toujours conserver cet esprit innovant. Accessit, on a été assez connu sur le marché comme étant toujours celui qui faisait un petit peu un pas de côté. Et là, on fait un grand pas de côté, mais on le fait à plusieurs. Et Accessit a été aussi une entreprise qui a été dirigée pendant longtemps par deux dirigeants, Maxime Péribert et moi-même. Et ça a créé énormément de force, de réflexion, de motivation, de création. Et là, on retrouve avec Zachary, parce qu'on a un ADN commun et un parcours parfois commun, on retrouve l'ADN presque d'origine de l'entreprise, mais avec de la nouveauté et de la créativité avec un groupe qui nous donne les moyens en plus d'aller dans un métier qu'on n'avait pas fait encore, qui était l'investissement.
Donc la deuxième branche de l'ADN,
c'est vous. Nouvelle énergie et regard neuf, c'est vous ça.
C'est tout à fait moi.
Voilà, Zachary Leriche, bonjour. Alors,
bonjour.
On va peut-être parler un petit peu de votre parcours, parce qu'il est assez atypique. Vous êtes médecin de formation et vous avez dirigé des fleurons du retail, comme Sephora, les Galeries Lafayette, puis Marc Avenue pendant 6 ans. Oui, pour le coup, c'est un parcours un peu atypique, non ?
Ouais, c'est un parcours atypique qui a sa cohérence. Et derrière la cohérence, il y a mes valeurs, il y a mes envies, des études de médecine que j'ai menées jusqu'au bout, avec conviction là aussi, avant de changer d'avis, d'aller sur d'autres terrains qui étaient le retail, avant d'essayer l'immobilier. Puis je suis tombé un peu dans l'immobilier commercial, un peu par hasard, et j'y suis encore. Donc c'est une aventure qui continue, qui est alimentée par une certaine curiosité, une envie de bien faire. Et puis je retrouve quelque chose que j'ai connu pendant mes études, c'est-à-dire prendre plusieurs symptômes, conduire une réflexion cohérente, mener un diagnostic.
Diagnostic.
Puis bien sûr, la thérapie qui va avec, de choc ou pas,
voilà.
Tout dépendra de la problématique.
On a gardé le vocabulaire médical.
Tout à fait.
Il est toujours là. Qu'est-ce qu'un professionnel finalement de l'univers des enseignes va apporter à un gestionnaire d'immobilier commercial comme Accessit ?
Alors il y a la vision consommateur, il y a la vision enseigne comme vous dites, il y a aussi la vision de nos clients qui sont les mandants, qui sont les bailleurs. Toutes ces facettes-là d'un seul et même métier ont été apportées par mes différentes expériences. La direction du groupe Marc Avenue m'a permis de conduire cette stratégie-là qui regarde tous les clients. Et connaître finalement ce qu'attend le consommateur de nos centres commerciaux, de nos retail parks est important, c'est même le début de l'histoire. Connaître les attentes des enseignes, leur stratégie de développement et l'accompagner en étant un acteur du développement des enseignes en est une autre. Et bien sûr, nous travaillons pour des mandants qui nous font confiance dans la gestion quotidienne de leurs actifs. Et ce regard bailleur, cette exigence, ce process et le fait d'être en plein milieu entre tous ces acteurs-là, est une gymnastique intellectuelle extrêmement intéressante et aussi très exigeante. Apporter l'exigence, le savoir, tout en dégageant finalement une visibilité pour les équipes, mais aussi pour nos mandants, et la mission pour laquelle je resigne à nouveau en intégrant le groupe Accessit, pour plusieurs raisons. D'abord le challenge, la boîte qui est très belle, mais aussi des valeurs portées par Olivier Ganivin derrière Proméo. Et le tout fait un cocktail extrêmement intéressant. Si en plus on rajoute le fait de travailler en binôme sur une direction bicéphale avec Alexandre Séjourné, moi j'ai dit oui au bout de 2 secondes de réflexion.
Quels objectifs vous êtes clairement fixés ? C'est quoi le cahier des charges ?
Ce qui est important dans la stratégie de conquête et de reconquête que mène Accessit, avec Alexandre et moi à sa tête, c'est cette direction bicéphale qui, une, regarde vers les clients, vers les enseignes, mais aussi vers les équipes, rechercher un peu les synergies, remettre un peu de nervosité, de tonicité et sortir beaucoup de professionnalisme de la part de nos équipes qui n'en manquent pas. Et puis un regard qui est porté vers le marché, vers l'extérieur, vers le développement. On regarde beaucoup plus vers le futur tout en consolidant les fondamentaux d'une boîte qui a de très bons fondamentaux mais qui doit davantage s'armer. Le fait d'être adossé à un actionnaire qui a aussi une taille humaine, les valeurs communes avec Accessit est une force dans un marché où on est beaucoup plus à une espèce de solidification de plusieurs blocs, alors qu'on est en train plutôt, à mon avis, de chercher l'agilité et le sur-mesure que nous sommes en capacité d'offrir à nos clients.
Oui, le sur-mesure de plus en plus. Hein.
Tout à fait. Le sur-mesure dans l'offre merchandising, le sur-mesure dans le reporting financier que nous faisons, le sur-mesure aussi dans toutes les réponses très pratiques, très opérationnelles, très terrain que nous pouvons apporter à chaque étape de notre métier.
Alors j'ai vu que, vous me corrigez si je me trompe, mais que votre portefeuille contenait 55 centres commerciaux, c'est ça ?
Oui.
Mais se caractérise aussi par une forte proportion de pieds d'immeubles, c'est aussi ce qui vous caractérise, face à la restructuration justement des périphéries, parce que ça c'est un vrai sujet. Est-ce que le commerce de centre-ville et de proximité reste un terrain d'expression important pour vous ?
Oui, forcément, si on cherche aujourd'hui à investir dans le commerce, c'est qu'on croit au commerce,
ouais,
et au commerce physique. Le commerce, ça fait 5000 ans qu'il existe et qu'il mute, qu'il change de forme. Et aujourd'hui encore, il continue à muter, à changer de forme. On voit que ce qui change, c'est les proportions d'usage, les typologies. Désormais, pendant très longtemps, on a fait des objets qui était juste là pour aligner des commerces de manière assez neutre, sans véritablement d'expérience pour le client. Désormais, c'est totalement l'expérience du client qui est mise en avant, parce qu'il faut arriver à le séduire. Il faut qu'il a désormais beaucoup de choix. Le premier choix même qu'il a, le plus facile, c'est son téléphone, son ordinateur, depuis chez lui. Donc il faut arriver à lui proposer quelque chose qui l'incite à venir. Et que
beaucoup
ce soit...
de choix, beaucoup d'exigences aussi.
Voilà, beaucoup de choix, beaucoup d'exigences. Il faut lui faire vivre cette expérience. Il faut multiplier les occasions. Il faut que le lieu de commerce soit diversifié. Il faut d'ailleurs qu'il ne soit pas seulement du commerce. Il faut qu'il y ait du service. Il faut qu'il y ait du loisir. Il faut qu'il y ait de la restauration. Donc c'est beaucoup plus éclectique qu'on avait auparavant. Et pour venir sur le centre-ville... Toute ville a sa particularité, mais par définition, en termes d'expérience, d'architecture, d'ambiance, c'est quand même quelque chose qui normalement doit être une bonne base de travail. Ce qu'il faut ensuite, c'est pouvoir avoir les moyens d'intervenir sur, je vais utiliser un gros mot, mais c'est ce qui fonctionne sur le mix merchandising de la ville. Et nous, chez Accessite, on a à un moment donné travaillé un projet qu'on continue de travailler, qu'on aborde d'ailleurs avec certaines villes, qui s'appelait Ville Expérience Commerce, qui était en fait de mettre au profit du centre-ville les clés et les process qu'on met en place pour le succès des centres commerciaux.
Okay.
Voilà, parce que tout simplement, il faut que la ville, dans son ensemble, propose aussi une expérience. C'est moins facile à travailler le centre-ville parce qu'il n'y a pas un seul propriétaire, mais on voit qu'il y a de plus en plus de foncières publiques. Donc ce sont aussi des angles de réflexion et de travail, mais sincèrement, effectivement, aujourd'hui, Accessite se concentre beaucoup, toujours, sur le modèle centre commercial et retail park. Parce qu'on s'est beaucoup demandé ce qu'il allait devenir. Nous, on a essayé d'écrire d'ailleurs son histoire en 2030, pour voir à quoi il ressemblait, parce que c'est...
Et donc
ben, en fait, en 2030, déjà, il faut savoir qui sera son consommateur, qui sera son client. En 2030, les millennials auront 30 ans. Ceux de la génération suivante qui sont nés en 2010, ils auront 20 ans. Et ceux qui sont nés en 2010, eux, ils sont nés avec un téléphone dans la main, voire leur main et le prolongement de leur téléphone, on ne sait pas très bien.
Quand ils naissent, il y a déjà les
voilà. Langues, vous savez qui... donc eux, l'intelligence artificielle, la boîte de dialogue, etc., ça fait partie de leur vie. Et donc, comment on fait pour les attirer? Comment on fait pour les faire venir? Il n'en reste pas moins que ce sont des animaux sociaux, ils aiment se retrouver. Et donc, il faut créer ces lieux-là. Et il faut que le lieu de commerce ne soit plus un lieu d'alignement des commerces, mais que ce soit un lieu d'expérience en diversifiant les choses. Et on travaille, nous, c'est la raison pour laquelle on saisit cette opportunité pour pouvoir investir dans des actifs à restructurer, pour faire venir des activités qui n'existent pas. Le groupe Romeo a aussi une particularité, c'est qu'il a développé un concept qui s'appelle Hybride, qui est à Montpellier, dans le marché du Lez, et c'est une halle gourmande, c'est un lieu de vie et un peu un lieu de fête.
Ça se fait de plus en plus.
Exactement, mais c'est très difficile à faire, et eux, ils ont réussi à trouver le modèle et à le faire fonctionner. Le marché du Lez, c'est 4 millions de visiteurs par an. Et aujourd'hui, on travaille aussi avec Accessite, Promeo et Hybride, qui est cette structure, à intégrer ça dans des programmes de demain. Donc on a une vraie réflexion sur ce mix-use.
Et puis finalement, ça correspond aussi au thème de ce salon, hein. Le commerce, ça se vit. Justement, après 6 ans passés à la tête de Marc Avenue, c'est quoi pour vous l'ingrédient secret pour qu'un lieu de vente devienne un véritable lieu de vie et d'expérience?
En fait, il faudrait partir du consommateur, de ses attentes, en parler de la globalisation, des nouveaux usages, de quelque chose qui se passe ailleurs. Et je pense, paradoxalement, que l'envie est à la proximité, à l'échange, à la rencontre, des centres plutôt conversationnels où plusieurs générations peuvent se croiser. Ce qui change peut-être, c'est ce que nous proposons aux consommateurs, sa diversité, l'hybridation entre plusieurs activités, comment dans un seul et sous un seul et même toit, dans un centre commercial ou dans une avenue, on peut divertir les enfants tout en s'alimentant, tout en partageant quelque chose autour d'activités familiales. L'hybridation dont on parle, c'est la création des lieux de vie, des lieux d'échange où plusieurs connexions peuvent se faire, cette fois-ci dans la vie réelle.
On a parlé de 2030. 2030, finalement, c'est demain. Si on se projette encore un petit peu plus loin, est-ce qu'il y aura encore des centres commerciaux en 2050 ?
Je le pense.
J'en suis convaincu.
Je pense aussi que pendant très longtemps, l'urbanisme en France a été de séparer les flux. Donc on vit à un endroit A, on travaille à un endroit B et on consomme à un endroit C. parce qu'il ne fallait pas mélanger, ouais. On voulait que ce soit des séquences différentes.
Et puis on prenait la voiture pour aller du point A, bon,
voilà,
point
et il y avait une logique de transport, il y avait une logique d'étalement urbain, etc. Mmh. On voit que désormais tout ça est complètement remis en question parce que le réchauffement climatique, parce que le coût.
Le
prix du carburant fait que vous mettez 40 centimes de plus sur le prix de l'essence, vous le voyez immédiatement dans les performances des enseignes. Hein. C'est quasiment...
Sauf au niveau de l'alimentaire, peut-être.
Oui, mais et encore, et vous le voyez, si vous allez sur une autoroute urbaine, normalement embouteillée le matin à 8h, désormais c'est fluide.
Ouais.
Alors ça a peut-être un autre avantage. Mais bon, en tout cas, on voit que maintenant, on accepte de vivre dans une mixité. Et désormais, de pouvoir associer dans le même lieu, dès lors que c'est bien organisé, du commerce, le lieu de travail et le lieu de vie. Et donc, nous y croyons d'autant plus que Accessite associé à Proméo, c'est justement tous ces usages-là qu'on sait réunir dans un seul groupe, avec une approche agile et privée. Donc, on travaille aussi à pouvoir requalifier un lieu, ou même un centre commercial, à le retransformer en un lieu mixte qui va associer du logement, du tertiaire et du commerce.
Oui, c'est ça, c'est important aussi, je ne sais pas si le terme réutilisation est approprié, mais oui.
Vous avez la loi ZAN, on ne sait jamais, qui nous dit désormais qu'on ne peut plus artificialiser.
Vous êtes contraint. Ouais,
donc en fait, les entrées de ville deviennent un territoire de foncier très intéressant pour ça.
Une dernière question peut-être avant de vous remercier, messieurs, d'être venus sur ce plateau. C'est quoi, même si ça peut paraître évident comme ça au niveau de la réponse, mais l'intérêt pour vous d'être présent sur ce type d'événement?
C'est l'endroit où se rencontrent les enseignes, les bailleurs, tous ceux qui ont des idées, tous ceux qui ont de la bonne volonté. Mettre tout ça en commun va faire en sorte d'arrêter de parler du commerce bashing ou de la mort des centres commerciaux. Je n'y crois pas du tout, mais il y aura toujours des Cassandres qui nous diront tout ça.
Vous aurez toujours un journaliste pour vous dire que ça n'existera peut-être même plus.
Peut-être, mais nous serons là pour le démentir. Et le fait que nous soyons tous réunis ici prouve qu'on y croit, et on y croit beaucoup.
Ouais.
Et d'ailleurs, nous sommes ici plutôt en mode projet pour pouvoir construire les centres de demain, les pieds d'immeuble de demain, la commercialisation de demain, parce que nous y croyons collectivement.
Mmh. Et vous trouvez, globalement, au cours de vos échanges, vous avez de l'interaction positive, qualitative. Les gens sont optimistes, ont le sourire, malgré la conjoncture.
Écoutez, les salons sont toujours un baromètre de l'activité économique d'un secteur.
Oui.
Nous sommes présents au siècle depuis ses débuts en tant qu'exposants. Et chaque année, on mesure. Donc, il y a eu les années Covid, les années subprime avant. Il y a eu des moments de crise. On en a traversé, on en traverse toujours. Et je dois dire que je trouve cette année qu'il y a une sorte de vitalité retrouvée. J'espère que le ressenti va être dans les faits. Mais il y a une forme de vitalité retrouvée. Je trouve que, comme on le disait Zachary tout à l'heure, le commerce ne meurt jamais. On a toujours l'impression que c'est de la dernière fois, mais c'est un phénix permanent. Et on sent quand même, là, depuis cette année, l'année précédente, peut-être même sur d'autres salons baromètres comme le MIPIM ou le MAPIC, qu'il y a une intensité qui repart, malgré quand même qu'on traverse une crise, notamment dans tous les secteurs de l'immobilier, majeure et inédite.
Vous vouliez compléter ?
Je dis juste qu'ici, les difficultés ne sont pas niées. Il n'y a pas un déni collectif de tout ce que nous pouvons traverser ou ce que nous avons traversé d'une façon très concentrée ces dernières années.
Ouais.
Je dis juste que l'immobilisme n'est pas la solution, mais que la rencontre des bonnes volontés pour évoluer et changer est probablement, allez, certainement, ce qu'il faut faire.
Et c'est donc le bon endroit pour le faire.
Absolument.
Un grand merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de votre fidélité. Ce programme, comme tous les autres d'ailleurs, vous pouvez le retrouver en intégralité, en replay, sur l'application de Radio Immo et Radio Territoria, sur notre site internet également. Et on se retrouve, nous, dans quelques instants pour une prochaine émission. À tout de suite.
Le SIEC, le salon de l'immobilier et des espaces commerciaux, les 10 et 11 juin 2026 à Paris Expo, porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.